播董端。
Bonsoir, vous écoutez l'émission Mode d'emploi.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, avec ce soir l'équipe altermondialiste de Attaque et des membres du PIAF.
Et nous recevrons ce soir au téléphone Thomas Coutreau, économiste des économistes atterrés et porte-parole d'Attaque, qui nous parlera du livre « Notre monde a changé ». Mais nous continuons et nous commençons par les chroniques d'actualité de Jean-Marc, bien sûr, qui commence par une devinette catholique.
Une devinette catholique, c'est la mode avec ce que nous subissons au niveau politique. Alors, je vous la pose, réfléchissez bien. Quelle est la preuve que Fillon est catholique pratiquant ?
Les sourcils.
Non. Deuxième tentative.
La mèche.
Raté.
Les chaussures vernies ?
Raté. Alors, je vous donne la réponse. C'est simple, il ne se retire jamais.
On comprend, il fallait qu'on rire, c'est ça ?
Ah oui, c'est le but d'une devinette quand
même. Alors, tu vas continuer à nous parler de la présidentielle, mais avec un petit peu moins d'humour, on te prie.
Alors, sommes-nous en marche vers la 6e République ? Ce serait peut-être bien, et on peut se poser la question. En effet, nous avons une campagne présidentielle qui est complètement chaotique et complètement merdique. Dans aucun pays démocratique digne de ce nom, sauf peut-être l'Italie qui nous concurrence là-dessus, Fillon ou Le Pen n'auraient pu se présenter à l'élection présidentielle avec les casseroles qu'ils accumulent. Eh bien, en France, pas de problème, deux des favoris à l'élection présidentielle peuvent se présenter et ont même la possibilité d'avoir le deuxième tour et pourquoi pas d'être élu. Alors, ceci étant, cette élection présidentielle qui est un grand cru, pleine de rebondissements et de suspense, merci le canard enchaîné, mais au-delà des rebondissements plus ou moins cocasses ou répugnants, le déroulement chaotique de la campagne a différents avantages. 1. Donc, en premier lieu, ce chaos montre de façon éclatante que le système de la 5e République est usé jusqu'à la corde et ne correspond plus du tout aux besoins de la France contemporaine. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. La monarchie républicaine créée par De Gaulle, pour De Gaulle, avec De Gaulle, a vécu et doit céder la place à un système plus équitable et, disons-le, moderne. Le cavalier seul, immoral mais pas illégal de Fillon, la campagne héréditaire de la fille de son père ou encore l'aventure Macron soulignent l'absolue stupidité d'un système où tout se focalise sur une élection, une fonction, une personne, au détriment du débat politique, de la morale et au passage au détriment de l'intérêt général. 2. L'élection a l'avantage de souligner la merditude de notre classe politique, faite de profiteurs sans talent, d'élus sans vision et sans morale, d'élus sans parole, qui tournent leur veste de jour en jour et ne respectent aucun des engagements qu'ils ont pris tout au long des primaires de leur camp. 3. Dans la situation telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, les candidats qui semblent pouvoir gagner sont tous de droite. Macron, Fillon, qu'il ne faut pas trop enterrer trop vite, et Le Pen, ce qui devrait provoquer la nécessaire recomposition de la gauche, mais seulement après 2017. C'est ça le problème. 4. L'éclatement des cadres habituels laisse envisager une situation dans laquelle, chose inédite, le nouveau président ne pourrait compter sur aucune majorité. Un président qui serait immédiatement en état de cohabitation, ce qui aurait l'avantage, 1. De donner enfin une vraie importance aux législatives qui suivent en juin, et 2. Qui redonnerait sa puissance perdue à l'Assemblée nationale. Bref, le chaos de la campagne, le nombre important de députés qui renoncent à se représenter, pourrait redistribuer les cartes et provoquer une crise institutionnelle dont on pourrait sortir qu'au prix d'une réforme profonde ou totale de la situation. Dernière chose, c'est peut-être aussi un avantage pour la droite, car tout ce vrai faux débat autour de Fillon a permis aux médias qui soutiennent ouvertement Macron, Fillon et Le Pen, et qui tentent d'escamoter les autres candidats, ça leur a permis, assez curieusement, en parlant que des arnaques de Fillon, de supprimer tout débat sur le fond, et notamment d'escamoter les programmes de la gauche représentés par Hamon et Mélenchon.
Tu appelles à une révolution démocratique, c'est ça ?
Ouais, carrément.
Alors on poursuit avec la présidentielle, toujours.
Avec la deuxième mort de De Gaulle, parce que en fait, une des choses qui apparaît de plus en plus, et c'est depuis Chirac, mais qui se confirme de jour en jour dans cette élection, c'est que la droite s'est toujours réclamée de De Gaulle. De Gaulle qui est peut-être l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que la droite, en fait, est profondément malhonnête et que De Gaulle a été une exception d'honnêteté dans une droite malhonnête. Deuxième chose, c'est que nous avons des personnages totalement décomplexés, sans aucune légitimité, qui se succèdent à droite, à gauche aussi, mais à droite tout particulièrement, et qui utilisent à chaque fois l'image de De Gaulle pour essayer d'avoir l'air plus sympathique qu'ils ne sont. De Gaulle et l'image durable qu'il a laissée dans la politique française, force, l'intérêt général, probité, sobriété, ne sont que des leurres qui cachent de plus en plus mal, la vraie nature de la droite française qui peut se résumer à deux courants, à savoir le courant maurassien pétainiste et le courant ultralibéral individualiste. Le premier est représenté bien évidemment par le FN, mais aussi par toute une partie de Fillon, car il ne faut pas oublier que Fillon est entouré d'ultra-catholiques, d'anciens d'Occident chrétien, d'anciens du GUD, et évidemment aujourd'hui de la Manif pour tous. Quand on voit la photographie de son staff de campagne, c'est une véritable aberration démocratique, et là aussi, c'est hallucinant qu'il y ait encore des même 1% de gens qui veuillent voter pour un type pareil. La deuxième s'inspire de Thatcher et de Reagan, qui eux-mêmes plongeaient leur modernisme dans l'orthodoxie libérale du 19e siècle, et s'incarne à la fois chez Fillon et chez Macron. Dans tous les cas, plus de traces de gaullisme là-dedans. Juste une usurpation de plus. Qui pourrait imaginer le général de Gaulle mis en examen, disait Fillon, avant d'être mis en examen sans doute la semaine prochaine, mais sa famille politique, dont il se gargarise, avait lors de sa primaire un condamné, Juppé, un multiple mis en examen, Sarko, et un futur mis en examen, Fillon.
Et de Gaulle était catholique et il a su se retirer à temps.
Je sais pas, il a eu des enfants quand même. Il n'est pas beau.
Mais grands, très grands. Tous très grands.
Alors, dont un chez Le Pen.
Justement, ils ne sont pas tous très grands à droite. Je pense même que tu es beaucoup plus dur que moi. Tu penses que la droite, c'est quoi déjà ?
Alors la droite, je l'ai déjà annoncé avec la merditude. La droite, c'est de la merde et je vais vous
d'accord.
le prouver. Pourquoi alors, pas ? Je suis de gauche, vous l'aurez compris. Et comme dirait Delahousse ou Pujadas, je suis sectaire. Sectaire, pour ces gens-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que je défends l'intérêt général et que je pense qu'il doit primer sur les appétits particuliers. Ça suffit pour être sectaire pour les journalistes que nous avons aujourd'hui. Je ne partage pas donc la pensée ultralibérale qui consiste en bref à dire que les riches le sont parce qu'ils sont méritants et que les pauvres le sont parce qu'ils sont cons. Aujourd'hui, on ne dit plus cons d'ailleurs, on dit assistés. C'est plus joli. Avant, on disait qu'ils étaient mauvais. Maintenant, on dit qu'ils sont assistés. Mais c'est pareil, ce sont des cons. Et je pense qu'il n'y a pas deux catégories de jeux, il n'y a que deux catégories de gens qui votent à droite. Première catégorie, les pourris. Deuxième catégorie, les cons. Les pourris, ce sont ceux qui savent que le nucléaire est dangereux, que la malbouffe et la pollution tuent, comme l'exploitation capitaliste, qui se font élire pour permettre le pillage des États par les requins de la finance, les profiteurs du système comme Fillon, Sarko, Dassault, Bouygues et compagnie, qui se gavent d'argent public, plus ou moins légalement, tout en fustigeant les feignants de chômeurs, pourris, mais on peut le comprendre, car pour eux, être de droite est un moyen sûr de s'enrichir. De l'autre côté, il y a les cons. Les cons sont de loin les plus nombreux. Ce sont ceux du Trocadéro qui votent à droite parce qu'ils croient encore aux communistes au couteau entre les dents qui va les dépouiller, qui croient du fond de leur retraite par répartition que si les jeunes en chient, c'est bien fait pour eux, que c'est la faute aux étrangers, aux PD, etc. Ceux qui parlent sans arrêt d'honnêteté pour fustiger les fraudeurs de la Sécu, mais qui s'apprêtent à voter pour Fillon malgré ses casseroles, qui ont vénéré jadis Sarko et Chirac ou encore Le Pen avec leurs détournements divers. Ceux-là sont des vrais cons, qui ne se rendent même pas compte qu'ils vont être tondus comme les autres, exploités comme les autres, déremboursés comme les autres, mis en faillite par le CAC 40 comme les autres. Le problème, c'est que les cons sont toujours majoritaires.
Et il y a des cons à gauche, hein, je crois, non, quand même.
Ouais, mais laissez-moi ma chronique pour la prochaine fois.
D'accord. Tout va bien. Alors, justement, il y a des gens qui changent tout le temps de côté. Je crois que tu as parlé de l'opportunisme de Fillon et tu voulais qu'on passe, bien évidemment, Jacques Dutronc, l'opportuniste.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis. Je retourne mon pantalon.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous continuons l'émission avec une intervention de Patrick.
Mes chères mamans, mes chers papas, ma chère patrie, mes chers patrons, chers patriotes, chers compatriotes, c'est avec un grand serment de cœur, que je m'adresse à vous. En effet, je suis venu vous dire que je m'en vais. Je pars, je suis parti, sans parti pris, sans partisan. Je suis venu vous dire merci. Merci de ne pas m'avoir soutenu, ni épaulé. Merci de m'avoir abandonné. Merci de m'avoir lâché, dénigré, doublé, trahi, diffamé, calomnié, discrédité, noirci, décrié, harcelé, vilipendé, assailli. Merci d'avoir critiqué ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai voulu faire, ce que je n'ai pas voulu. Je sais qu'à votre place, j'en aurais fait autant, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'OTAN ? Un merci tout spécial à mes amis, ceux de mon parti, depuis longtemps parti, les tout premiers même. Merci aux ennemis de mes amis, tout récemment devenus mes copains. Merci à la presse qui a tant écrit sur moi. J'ai apprécié tout ce qu'elle a pressé, compressé, oppressé. Merci à ceux qui ont fait mes discours et aussi mes livres que désormais j'aurai le temps de lire. Merci à ceux qui m'ont soutenu, Joseph, Marie, l'âne et le bœuf, les rois venus d'Orient. Merci pour leur présent et pour leur passé. Merci aux chefs cuisiniers, fidèles à mon régime, ainsi qu'au tambour-major de la garde républicaine, qui m'a souvent distrait durant les moments pénibles et quand il pleuvait. Oui, demain, dès l'aube, à l'heure où s'achève la campagne, demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins, me retirer là-bas, dans mon île déserte, la Sainte-Hélène, l'île Saint-Louis. Là-bas, jour après jour, je songerai à vous, mes chers triotes, chers tribuables, gaulois et gauloises, celtes et celtes, bretons et crêpes, Auvergnats et bourrés, Alsaciens et Siennes, Paca et Brigitte Bardot. Je ne t'oublierai pas, peuple de France, mon frère, de Trafalgar à Merselkébir, de Vichy à Évian, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
C'était une belle intervention quand même.
Merci. Enfin,
on aurait bien aimé l'entendre directement de la bouche de François Fillon, de François Hollande, ou de François je ne sais quoi. Mais non. Alors nous avons au téléphone notre invité. Il s'agit de Thomas Coutreau, qui est économiste, spécialisé dans les questions du travail, de l'emploi, de la démocratie. Il fait partie du réseau des économistes atterrés, et il est aussi porte-parole de l'association ATTAC, dont beaucoup de militants autour de cette table de radio font partie. Il vient nous présenter son livre « Notre monde a changé ». Alors c'est un livre collectif, il en est un des auteurs et il représente ici ATTAC. C'est une collaboration entre ATTAC et Civic City aux éditions Lars Müller et Publisher. Alors bonjour Thomas Coutreau.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et merci de venir pour cette interview. Et voilà, donc c'est une collaboration entre ATTAC et Civic City. Peut-être un mot sur Civic City, qui présente entre autres le cadre de ce livre un peu particulier.
Oui, alors Civic City, c'est un institut de recherche critique en design. Donc ce sont des graphistes, des urbanistes, des architectes, des sociologues, et qui travaillent autour de concepts visuels pour essayer de traduire en images et en architecture aussi des idées d'émancipation, des idées d'internationalisme, des idées citoyennes, voilà. Et donc c'est une démarche qui rejoint sur le plan artistique et graphique, qui rejoint la démarche d'ATTAC. Donc c'est pour ça que quand ils nous ont contactés pour travailler ensemble, on a été très très content de pouvoir faire cette expérience de collaboration entre une association, un mouvement d'éducation populaire comme ATTAC, et puis un institut de design critique, on va dire, comme Civic City.
Alors le résultat est un très joli ouvrage d'une 250 pages. Alors ça paraît un énorme livre, mais en fait c'est beaucoup de dessins, peu de textes, donc j'incite tout le monde à feuilleter l'ensemble de ces 250 pages. Le résultat graphique, ce sont des dessins noir sur blanc ou noir sur jaune, très très beaux, très stylisés comme on dit. Alors j'en cite un et on peut partir déjà sur ce thème, c'est celui de la surpopulation sur la planète, ça donne un peu l'esprit du livre. C'est une page où il y a plein de petits personnages pour montrer qu'il y a 240 millions d'habitants, il faudrait donc 31 doubles pages pour représenter la population de la Terre, mais c'est pour donner une idée de la mesure des chiffres. Et on peut le mettre en parallèle immédiat avec un autre dessin qui est très intéressant. On voit des personnes toutes petites qui ont l'air d'être assez pauvres et puis des personnes un peu plus grandes qui ont l'air d'être des workers, comme on dit américains, donc des travailleurs à l'américaine avec des blazers et des tailleurs. Et puis deux pieds immenses avec des jambes. Et le texte, c'est « Il existe sur Terre de grosses différences de revenus entre les pauvres, les moins pauvres, les un peu riches, les riches et surtout les très très riches ».
Oui, tout ce graphisme très original, en fait, il est inspiré directement d'un système qui avait été inventé en 1925 par un sociologue et économiste autrichien qui s'appelait Otto Neurath. Qui avait appelé ce système d'image le système isotype. Donc c'est un système de figurines un peu stéréotypées, des figurines très expressives qui représentent des types, des personnes types de la société. Et donc vous avez effectivement le travailleur, l'ouvrier, mais aussi la femme de ménage qui est souvent représentée comme une femme de couleur, négligée, méprisée par les hommes en cravate et les femmes en tailleur avec des bijoux qui boivent des coupes de champagne. Donc voilà, c'est un graphisme très suggestif, très très élégant et en même temps assez violent puisqu'il illustre de façon assez crue les inégalités, les différences de statut dans notre société.
Alors justement sur les différences de statut et de revenus, un chiffre sur lequel on parle souvent, mais les 10% les plus riches possèdent 83% de la richesse mondiale. Ça c'est un chiffre qui est illustré à plusieurs reprises et de manière très très agréable.
Oui, alors d'ailleurs, entre le moment où on a travaillé sur le texte du bouquin et la sortie du bouquin, il y a eu un nouveau rapport, Oxfam a sorti un nouveau rapport sur les très très riches. Hein. Et alors qu'il y avait, dans le rapport de l'année dernière, la moitié de la population mondiale possédait autant que les 60 personnes les plus riches de la planète. Bah, dans le dernier rapport, avec des nouvelles informations, c'est les 8 personnes les plus riches de la planète qui concentrent la même fortune que la moitié de la population mondiale. Donc on a même du mal à suivre. Les chiffres sont tellement démentiels, sont tellement absurdes que c'est difficile à suivre. Alors évidemment, l'ambition de ce bouquin, c'est de représenter visuellement, graphiquement, des réalités qui sont inimaginables, en fait, qui sont impensables. Elles sont impensables, elles sont inimaginables, et le pari, c'est de les rendre visibles.
Alors, vous prédisiez déjà le futur, vu que, pour prendre ce chiffre de 8 personnes, c'est que l'imaginaire de la société capitaliste étant l'accumulation infinie de richesses, ces hyper-riches seront sans doute bientôt assez peu nombreux pour pouvoir se réunir autour d'une seule table. Ça y est,
c'est déjà fait. Oui, tout à fait, on avait anticipé. On ne pensait pas que ça viendrait au bout d'un an seulement.
Donc la surpopulation issue de ce livre est très très graphique, mais des graphiques aussi sur pour représenter la part du patrimoine, pour montrer que les 1% les plus riches vont passer à posséder de 44% en 2009, 48% de la richesse en 2014, donc 50% en 2015 et donc aujourd'hui encore plus. Chaque dessin représente ça avec des petites échelles, des petits personnages. Est-ce qu'il y a un chiffre dans ce thème-là qui vous a le plus parlé, que vous avez voulu mettre en avant?
On a plusieurs pages, on insiste pas mal sur la question des paradis fiscaux hein, et de l'évasion fiscale. Donc évidemment, le chiffre choc, c'est le chiffre de 36 000 milliards de dollars qui sont hébergés aujourd'hui dans les paradis fiscaux. Hein. Alors l'image, c'est un gros chiffre. 36 000 milliards et puis une multitude de personnes, c'est une femme en fait assise par terre avec un gobelet devant elle et qui fait la manche. Donc cette coexistence graphique de chiffres gigantesques, même de chiffres impensables, de la plus extrême, du plus extrême dénuement, c'est voilà, c'est le choc des images.
Et sur ce même thème des paradis fiscaux, c'est aussi faire comprendre ces grands chiffres, 36 000 milliards, j'ai un peu de mal personnellement, mais ça représente 15% de la richesse mondiale qui est estimée, d'après votre ouvrage, à 240 000 milliards de dollars. Et le graphique est très parlant pour comprendre à quel point ça représente quand même 15% de la richesse totale, ce qui est évaporé dans les paradis fiscaux.
Oui, et donc voilà, si on récupérait, si on pouvait taxer même une petite partie de cette fortune, ça résoudrait bien des problèmes budgétaires aujourd'hui qu'on nous dit insolubles, hein, et qui justifient soi-disant les politiques d'austérité, la réduction des dépenses publiques, la réduction des investissements publics, l'absence de soutien à la transition énergétique, hein, l'absence de subventions, de financement aux énergies renouvelables, tout ça est justifié par l'absence de ressources, par les déficits budgétaires. Et là, le bouquin rappelle visuellement, hein, à quel point il serait facile de financer ces urgences en récupérant une partie même minime, hein, de ces sommes. Alors ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de décrire visuellement, là encore, les schémas, à la fois les schémas d'évasion fiscale avec les paradis fiscaux, les banques, les filiales dans les paradis fiscaux, le flux d'argent entre les pays de départ, les pays disons occidentaux, et puis leurs filiales dans les filiales des banques dans les paradis fiscaux, argent qui revient ensuite lavé ou nettoyé, qui peut servir à acquérir des biens et des châteaux dans nos pays. Et puis on a essayé aussi de représenter visuellement les phénomènes de spéculation sur les denrées alimentaires, de spéculation sur les monnaies. Donc voilà, tout ça est assez fascinant de voir comment, bon, moi j'y suis pas pour rien, enfin j'y suis pour pas grand chose, je veux dire. C'est c'est surtout nos amis graphistes qui ont utilisé le texte et le matériau qu'on leur avait fourni pour déployer leur imagination et trouver des astuces, des idées graphiques assez étonnantes.
Alors sur un autre thème, c'est la pauvreté, et qui rappelle que plus d'un milliard d'êtres humains vivent encore aujourd'hui avec moins d'un dollar par jour. Et là, c'est plein de petites remarques pour bien faire comprendre. Donc là, ça dépasse aussi le dessin. C'est de représenter qu'un dollar d'hier, c'est aussi encore un dollar aujourd'hui, c'est aussi un dollar demain, c'est toujours un milliard d'êtres humains, alors que le dollar permet d'acheter d'année en année de moins en moins de choses.
Oui, alors c'est vrai que on a reproduit dans le livre un graphique qu'on appelle la courbe de l'éléphant, qui montre, c'est un graphique produit par des économistes de la Banque mondiale, qui montre comment ont évolué les revenus dans le monde depuis une quinzaine d'années. Et alors, c'est vrai qu'il y a la bosse, enfin la tête de l'éléphant, c'est-à-dire le haut de la courbe, ça représente les classes moyennes de Chine et d'Inde, qui ont connu une augmentation très importante de leurs revenus au cours des 30 dernières années. Donc ça, c'est la mondialisation, l'émergence de la Chine et de l'Inde comme des pays de consommation de masse. C'est un phénomène tout à fait réel. Et en même temps, il y a aux deux extrémités de la distribution des revenus, tout en bas du côté des plus pauvres, il y a eu une stagnation, voire une chute des revenus des plus pauvres, en Afrique notamment. Et puis du côté l'extrême opposé, du côté des très riches, là, il y a eu, là, au contraire, une explosion des revenus des 1% les plus riches. Alors, en France, c'est plutôt les revenus des 0,1%, hein, qui ont explosé. C'est encore plus concentré en France que dans d'autres pays. Mais voilà, ce phénomène de croissance des revenus d'une vaste classe moyenne chinoise et indienne mais avec aux extrêmes un appauvrissement et un enrichissement, elle est très bien représentée par cette courbe de l'éléphant que nous avons repris d'un rapport de la Banque mondiale.
Alors on va faire une courte pause musicale pour reprendre après sur d'autres pages qui concernent peut-être vos sujets principaux comme par exemple le capitalisme, la concentration des entreprises ou le thème qui nous importe aussi d'actualité, la démocratie. Mais on va parler justement un petit peu de chiffres en rappelant un chiffre que les présidentielles ont souvent rappelé, c'est pourquoi travailler plus de 35 heures, enfin c'est Trio qui donne la réponse.
On n'a pas voté pour travailler plus, je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné. Les amis d'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler plus pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, et ce soir des membres d'Attaque et des journalistes du PIAF.
Et on poursuit avec Thomas Coutreau, économiste des économistes atterrés et porte-parole d'Attaque, à propos du livre « Notre monde a changé », qui rassemble différents graphiques et différents textes, et nouveau thème, celui peut-être des libertés par rapport à l'économie. Et on peut peut-être partir de la page des libertés, qui décrit le mot « liberté » comme une valeur évoquée par tous, qui bénéficie pourtant à ceux dont la richesse et le pouvoir exorbitant est une agression permanente. Et on voit différentes personnes, on reparle de ces petits personnages stylisés comme la mendiante qui a la liberté de mendier, la prostituée qui a la liberté de se prostituer pour nourrir son enfant, ou la liberté d'un travailleur qui a la liberté de cumuler plusieurs emplois. Et tout ça est confronté à la liberté économique.
Ben oui, on voit bien que le mot de liberté aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais depuis l'essor du néolibéralisme, c'est basé sur l'idée de la liberté comme priorité absolue, et donc la liberté, mais entendue comme la liberté économique, entendue donc comme la possibilité pour chacun, mais évidemment pour les plus riches, d'accumuler de façon illimitée des richesses, de s'accaparer une part de plus en plus importante de la richesse commune. C'est ça la liberté telle qu'elle est conçue et mise en œuvre aujourd'hui par le néolibéralisme. Évidemment, c'est cette liberté des plus riches, c'est la négation de toute liberté pour la grande majorité de la population. Et il n'y a pas de liberté sans égalité. Et évidemment, l'égalité sans liberté, c'est une catastrophe, mais la liberté sans égalité, c'est aussi une catastrophe. Donc il faut parler. Le terme que propose d'ailleurs, on l'a pas repris dans le bouquin, mais on aurait peut-être dû le terme d'Étienne Balibar, d'égaliberté, hein, c'est vraiment, je pense, une idée fondamentale. On ne peut pas sacrifier l'égalité à la liberté. Il n'y a pas de véritable liberté sans égalité. C'est la liberté sans égalité, c'est l'oppression des plus riches sur les plus pauvres.
Et donc ce thème arrive vite à l'idée d'échanges commerciaux avec les règles. Il y a plusieurs dessins qui essayent de représenter d'un côté l'espace public, de l'autre côté le monde du commerce, et des graphiques très, très malins pour essayer de faire comprendre comment peuvent marcher la marchandisation des différents biens, des services publics. Là, j'imagine que vous êtes à Attaque derrière toutes ces idées.
Oui, enfin, c'est des idées qu'on porte depuis longtemps, bien sûr, sur les accords commerciaux qui devraient être fondés sur la coopération et non sur la mise en concurrence et la marchandisation de tous les domaines de la vie sociale. Je pense que ce qu'on a essayé de faire aussi dans le bouquin, c'est pas seulement de critiquer le néolibéralisme, la marchandisation du monde, les inégalités, mais c'est aussi de mettre systématiquement en avant des alternatives. Par exemple, sur la question de la monnaie, aujourd'hui la monnaie, l'euro ou le dollar sont des monnaies qui sont monopolisées par les banques, par le système financier. Toute la création monétaire va vers les banques et vers la spéculation financière au lieu d'aller vers des investissements utiles, les créations d'emplois. Et donc on met en avant dans le bouquin l'idée de développer des monnaies complémentaires, des monnaies locales, régionales, voire même nationale. On pourrait lancer des monnaies complémentaires nationales. On a publié hier d'ailleurs dans Libé un article, une tribune proposant ça pour la France. C'est cette idée que se réapproprier la monnaie, créer des monnaies citoyennes, c'est-à-dire des monnaies qui ne sont pas sous la coupe de la Banque Centrale Européenne qui elle-même est au service des banques capitalistes européennes, il y a là une marge de liberté, justement, de vraie liberté, et de créativité. Bon, ça se développe aujourd'hui, les monnaies citoyennes, les monnaies complémentaires se développent, mais de façon encore insuffisante. Et ce serait évidemment une véritable politique alternative au niveau régional ou au niveau national, ce serait de favoriser le développement de monnaies locales complémentaires.
Et là, les dessins sont très parlants, où on voit les fameux circuits courts représentés par des flèches entre des individus qui font des échanges au niveau local sans avoir systématiquement besoin des banques, bien entendu.
Tout à fait. Ça permet, les monnaies complémentaires permettent de s'autonomiser du système financier. On n'a plus besoin de trouver des euros sur les marchés financiers ou dans les banques privées pour pouvoir solvabiliser une demande. Il y a des gens qui sont au chômage ou qui voudraient travailler et qui peuvent pas dans les régions, dans les localités. Ils peuvent pas parce qu'il y a pas d'argent pour les faire travailler, pour les rémunérer, et par contre, ils pourraient produire des biens et des services qui trouveraient preneur s'il y avait des consommateurs et des usagers avec un pouvoir d'achat monétaire. Et donc voilà, mettre de l'argent en circulation à ce niveau-là, ça permet de faire rencontrer une offre et une demande locale, donc qui ne passe pas par des importations ou par des spéculations lointaines, et qui permet de redynamiser les circuits économiques locaux.
Donc ça, c'est un thème qui mène à la logique de la démocratie. Alors dans cette période d'élection, on se demande encore exactement ce qu'est une démocratie, mais justement dans le thème des propositions concrètes, il y a des dessins pour faire comprendre, même au sein de l'entreprise, comment une décision peut être prise de manière collective, la délibération démocratique de citoyens qui seraient, eux, bien informés. Donc là, il y a toute une partie du livre là-dessus qui est très concrète.
Oui, alors on essaie de montrer visuellement comment. Alors je crois que c'est un, à mon avis, c'est un des passages les plus riches du bouquin. C'est vers la fin, toute la description de ce que serait une démocratie réelle, avec des institutions, avec des institutions réellement démocratiques. Et donc là, on met en scène, on met en visibilité des moyens, comme par exemple des jurys populaires, un sénat de citoyens. Donc l'idée d'avoir un sénat qui serait pas composé de notables élus de façon indirecte, mais qui serait composé de citoyens, de 500 personnes tirées au sort chaque année, qui auraient un pouvoir de veto sur les législations votées par le Parlement élu. Donc ça donnerait véritablement un contre-pouvoir citoyen au cœur même du système représentatif. Ça permettrait très certainement de mettre les députés et les partis politiques sous la pression citoyenne, mais de façon institutionnelle, de façon directe. Ce serait même pas la peine. Enfin, en tout cas, les manifestations de rue et les résistances de rue rencontreraient dans ce Sénat citoyen un relais extrêmement intéressant pour bloquer des projets législatifs qui seraient contraires aux intérêts de la population, aux intérêts des salariés. Bon, il y a d'autres propositions. On va jusqu'à avancer l'idée d'un Sénat des citoyens du monde, où les citoyens seraient représentés, les pays seraient représentés proportionnellement à leur population. Alors là, le Sénat des citoyens du monde aurait surtout un rôle symbolique, un rôle d'observation et d'analyse critique du fonctionnement des institutions internationales et d'interpellation de l'opinion publique mondiale pour mettre en évidence les dérives ou au contraire les bonnes initiatives prises par les institutions internationales. Ces membres du Sénat citoyen mondial pourrait aussi participer aux institutions, enfin, aux réunions des institutions internationales et représenter la voix des citoyens directement, sans passer par les États, sans passer par les représentants des États. Ce qu'on recherche là, c'est une revitalisation de la démocratie qui soit aussi une mise sous contrôle des États et des représentants élus, dont on voit que trop souvent ils ont gagné une autonomie considérable par rapport aux citoyens, par rapport à leurs électeurs.
Et c'est surtout des thèmes qui sont bien intéressants à entendre dans un cadre où la démocratie semble tout à fait volée par cette élection présidentielle et surtout ce que les médias nous font entendre de cette élection. Eh bien, on vous remercie pour ce livre et pour cette interview. Alors, une dernière chose à dire sur ce livre ou sur l'actualité sur laquelle vous voulez réagir?
Ah oui, alors je voulais juste préciser un tout petit détail, mais c'est que je suis plus porte-parole d'Attac. J'ai été porte-parole jusqu'au mois de mai dernier, donc c'est juste un détail. Mais aujourd'hui, c'est Dominique Pignon et Aurélie Trouvé qui sont les porte-parole de l'association. Voilà, avec nos amis de Civic City, on a bien envie de continuer à travailler ensemble parce qu'on s'est vraiment bien amusé à faire ce projet. Hein. Rudy Bohr, qui est le principal animateur de Civic City, elle nous a proposé de continuer une collaboration. Donc on réfléchit et peut-être qu'on va faire ensemble un nouveau bouquin l'année prochaine sur... Et là, ce sera directement, je pense, une utopie, un livre sur... qu'est-ce que ce serait qu'un autre monde? Un autre monde est possible, mais comment pourrait-on le décrire?
Et là, on imagine bien tout plein de dessins pour mettre en situation l'individu. D'ailleurs, dans ce livre, il y a aussi le jeu de la démocratie par rapport au monde du travail. C'est comme un petit jeu de loi où on arrive à comprendre comment le patron arrive à faire l'oppression.
Ce serait plutôt le pas de loi, mais...
Le pas de loi.
Tout à fait. Eh bien, merci Thomas Coutreau. Et nous continuons l'émission en écoutant Lojo, qui nous parle de nous, finalement. Il nous dit « Tout est fragile ».
Fragile, important, fugitif, tout est éternel.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec des journalistes du PIAF et des membres de l'ATTAC.
Et une chronique de Gaël qui ne nous parle pas de traités européens ni internationaux.
Non, de France. Chacun a entendu parler de propositions certains candidats de droite sur la santé, réduire la part de la Sécu dans les remboursements, transférer des milliards de remboursements de la Sécu vers les complémentaires, les trucs habituels. Ça a choqué, mais finalement, ce ne serait que la poursuite du processus en cours depuis longtemps. Et pour comprendre ce processus, il faut rappeler un peu d'histoire. Quand la Sécu a été créée à la Libération, les mutuelles n'ont pas disparu. Et on a ce système étrange où les soins sont remboursés à la fois par une assurance maladie unique et par une multitude d'organismes complémentaires, mutuelles ou assurances privées. Historiquement, les mutuelles étaient fondées comme la Sécu sur un principe solidaire. Chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et puis, au début des années 90, selon les directives européennes, les mutuelles ont dû choisir. Soit elles intégraient le système d'assurance maladie obligatoire, soit elles restaient des complémentaires. Mais dans ce cas, elles étaient soumises aux mêmes règles que les assurances privées, en vertu du saint principe de concurrence libre et non faussée. Et elles ont choisi la deuxième solution. Et donc, quand une mutuelle entre en concurrence avec une assurance privée, elle devient de moins en moins une mutuelle et de plus en plus une assurance. Elle module les tarifs en fonction du risque, les frais de gestion augmentent, entre autres pour payer de la publicité. Au début des années 2000, les frais de gestion des mutuelles étaient autour de 15%. En 2014, ils atteignaient 19% du montant des cotisations versées pour les mutuelles. Alors, il y a encore un peu de marge, puisque pour les sociétés d'assurance privée, c'est 24%. Une bonne partie des cotisations sert à payer des actionnaires et de la publicité. C'est très utile pour la santé. Pour comparer, les frais de gestion de la Sécu, c'est 6% seulement. Alors que faire? Le statu quo n'est pas tenable, car si la Sécu rembourse bien, à plus de 90%, les dépenses pour les maladies graves et de longue durée, elle rembourse mal, à moins de 50% en moyenne, les frais pour les soins en courant, et encore plus mal, les soins dentaires, d'optique et d'audition. Si bien que les membres des classes moyennes plutôt bien portants croient de moins en moins qu'on paye selon ses moyens et qu'on reçoit selon ses besoins. Car on paye deux fois, une fois pour la Sécu, pour la solidarité, et puis une fois pour sa mutuelle, pour soi et pour sa famille. Et quand les classes moyennes reçoivent de moins en moins du système public, la Sécu, tout en payant de plus en plus leur assurance privée, bien c'est la fin du système public. Les gens vont inévitablement exiger la fin du monopole de la sécurité sociale, opter pour les solutions de droite, de tout privé. Et comme le dit André Grimaldi, une Sécu qui deviendrait une assurance réservée aux pauvres et aux personnes très malades se transformerait rapidement en une pauvre assurance très malade. Alors puisqu'on ne peut plus compter sur les mutuelles pour une santé solidaire, Martin Hirsch et Didier Tabuteau ont proposé dans une tribune du 15 janvier une sécurité sociale intégrale qui mettrait fin au système dual Sécu complémentaire, ce qui éviterait notamment de payer deux fois des frais de gestion pour un même soin, d'autant plus que ceux des mutuelles sont élevés. On économiserait ainsi 6,8 milliards de frais de gestion des complémentaires. Ça ne résoudra pas tout. Dès lors que la Sécu couvre tout, il faut définir ce qu'on met dans tout, c'est-à-dire un panier de soins et de prévention qui ne soit pas juste un filet de sécurité pour les pauvres. Ce panier de soins, doit être ce qu'on considère comme le juste soin pour chacun, au moindre coût pour la collectivité. Ça implique une vraie démocratie sanitaire, avec un débat national sur le contenu du panier, et une gestion démocratique de la Sécu, qui figurait d'ailleurs dans les statuts initiaux, mais aujourd'hui on en est assez loin. Alors pour imposer ce projet, il faudrait un rapport de force tel que celui qu'on avait en 1945 et qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors Alain Grimaldi propose une étape intermédiaire, c'est de permettre à chacun de choisir la Sécu comme complémentaire santé, pour ceux qui le souhaitent. Ça réduirait déjà une partie des frais de gestion, mais ça a un inconvénient majeur pour les candidats de droite, c'est que ça n'offre pas de clients aux copains qui dirigent des boîtes d'assurance.
Mais il y a un gros persifleur.
Par exemple, le frère de Sarko, qui est l'un des pontes de l'assurance privée. Des mutualistes, pardon.
Oui, des mutualistes, non, quand même. Il peut avoir un procès pour ça, voyons. Alors, on va aller tranquillement faire l'agenda. Et ça commence par Alex.
Alors, samedi à 10h demain, formation à la désobéissance à l'Île-Saint-Denis. Alors, je vous rassure, c'est des stages de désobéissance civile et d'action directe non violente, je précise. Donc, samedi 11 mars de 10h à 19h, et c'est à l'Île-Saint-Denis. Et on peut s'inscrire sur remy@desobeir.net.
Dimanche 12 mars à 15h, place de la République, rassemblement Stop Corruption. On va faire comme les Roumains, avec nos casseroles, contre les conflits d'intérêts, la corruption, les abus de biens sociaux. Et il y aura des suites, les 19-25... c'est la suite en fait. Et voilà, il y en aura d'autres rassemblements contre la corruption tous les dimanches à 15h, place de la République, et puis ailleurs dans d'autres villes.
Après-demain, dimanche, à la Belle Étoile, 14 allée Saint-Just à Saint-Denis, joli môme. Procès des violences policières, nous vous invitons à venir témoigner, à donner votre avis.
14 mars au CICP, 21 Terre rue Voltaire, réunion ouverte sur les mardis GlobeNet. GlobeNet, une association militante au service de la liberté d'expression, proposant des services Internet.
Service Internet dont une partie de l'émission dépend pour notre diffusion web. Mardi 14 mars à 20h au Centre culturel du cinéma La Clé, rue d'Aubenton à Paris, projection débat. Dis-leur que j'existe, une histoire sahraouite dans le cadre de la semaine anticoloniale 2017. C'est un film de Manu Mossé sur le militant des droits de l'homme sahraoui, Nahama Asfari. Il y aura un débat avec un représentant du Front Polisario en France.
Et donc jeudi 16 mars à 19h, c'est au Théâtre du Gouvernail, passage de Thionville, métro Ourcq à Paris. Donc dans le cadre du Théâtre Citoyen, Croissance revient, une pièce sur l'église de la très sainte consommation par la compagnie Triple A avec Alessandro Di Giuseppe de l'église de la très sainte consommation. Et c'est un one-man show mêlant théâtre participatif et humour corrosif.
Jeudi 16 mars à 19h30 au Maltais Rouge, 40 rue de Malte à Paris. Causerie des Lilas, numéro 5, avec Aurélie Trouvé.
Porte-parole d'attaque.
Le bonheur est dans le pré. comment nous avons changé le modèle agricole.
Vendredi 17 mars à 18h30, place du Palais Royal, cercle de silence à Paris contre le traitement inhumain des sans-papiers.
Si vous voulez voir le spectacle Dead System, un spectacle généreusement comique sur un sujet sérieusement austère, une présentation de la pièce de théâtre par la troupe théâtrale Croque-Mitaine, vous pouvez aller soit à l'espace Jean Carmé à Étampes le vendredi 17 mars à 20h, tarif libre, prévoir un coussin, ou le samedi 18 mars à 20h30 au LMJC Louise Michel à Fresnes. Il y aura ce jour-là en plus un débat avec Dominique Plion, porte-parole d'Attaque France.
Et donc, le vendredi 17 mars à 20h30, à la salle Michelet, place Michelet, à Houille, une réunion publique d'attaque organisée par le groupe local de Houille, grand rabais sur le service public, avec Denis Turbet-Deloff, qui est un responsable syndical spécialiste de la fonction publique, et qui va réagir notamment au programme des Républicains de François Fillon, qui prévoit 500 000 fonctionnaires en moins.
Attention générique, c'est une intervention de Gaël sur la ville de Versailles.
Et oui, il se passe quelque chose à Versailles le samedi 18 mars à 17h.
Et en 89 aussi, il s'est passé des choses à Versailles. Hein.
Là, ce sera plus calme. C'est une rencontre animée par les éditions La Dispute avec Alberto Amo et Alberto Minguez autour de leur ouvrage Podemos, la politique en mouvement, à la mairie de Versailles.
Dimanche 19 à 14h, marche pour la justice et la dignité. La manifestation part de Nation et va jusqu'à République. Et à 18h, concert.
Lundi 20 mars à 19h30, le Rémouleur 106 rue Victor Hugo à Bagnolet, local auto-organisé de lutte et de critique sociale. Présentation des mobilisations anti-G20 de juillet 2017 à Hambourg.
Café associatif La Commune rue d'Aligre le mardi 21 mars avec Attaque Paris 12e. Projection débat autour de l'évasion fiscale, le hold-up du siècle, un film de Xavier Harel et de Rémi Burkel. Projection suivie par d'un débat avec la Fondation Copernic.
Et alors, mardi 21 mars à 20h, au Centre culturel, le cinéma La Clé, 34 rue d'Audemanton, projection débat d'Enfin des bonnes nouvelles, un film réalisé par Vincent Glenn, avec ensuite derrière un débat animé par Daniel Rome, professeur d'économie et membre du conseil scientifique d'Attaque. Et il s'agit de s'intéresser aux possibilités laissées aux chômeurs, comme c'est illustré dans le film, créer une agence de notation citoyenne par exemple.
Le mercredi 22 mars à 18h30, un débat au Maltais Rouge, 40 rue de Malte, fin du travail ou plein emploi. C'est avec Sabina Issehan et Raphaël Liogier, organisé par la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l'Institut Tribune Socialiste.
Samedi 25 à 14h, à l'espace de conférence Iris, 2 bis rue Mercœur, métro Voltaire, troisième journée de la critique des médias. Table ronde, conférence gesticulée de Philippe Merlan et des reportages inédits concoctés par Nicolas Lambert en collaboration avec l'équipe d'Acrimed.
Et voilà, ça termine notre émission. On avait autour de la table Jean-Marc, Patrick, Alex et Gaël, Jean-Yves à la technique avec Ludo qui l'assistait, et pour inviter Thomas Coutreau pour le livre « Notre monde a changé ». On se quitte en écoutant Miles Davis, « My Storm ».